Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour la suite du roman de Michael McDowell, Blackwater. Bray retira sa main à la hâte. Les yeux plissés, il fixa un instant le soleil, tendit l'oreille sans percevoir autre chose que le crissement du canot contre les briques rouges, et allongea à nouveau le bras, sondant l'espace sous la fenêtre. Aucune autre valise. Il n'avait d'autre choix à présent que de regarder dans la chambre, glisser sa tête par la fenêtre et scruter la pièce à la recherche du second bagage de Mademoiselle Elinor. Avec la désagréable conscience d'être à cet instant précis le seul être humain de tout Perdido, Bray se rassit dans le canot pour réfléchir à la situation. Il se pouvait qu'en lançant un coup d'œil là-dedans, il aperçoive la valise à sa portée. C'était le plus probable, et il serait alors capable de la récupérer comme il l'avait fait pour l'autre. Mais il se pouvait aussi qu'elle soit hors de portée. Il lui faudrait alors se hisser dans la chambre. Et ça, pas question. Mais peu importait, après tout, il pourrait toujours dire à M. Oscar qu'il n'avait pas pu sortir du canot, n'ayant pas trouvé d'endroit où l'amarrer. Bray se remit debout et assura son équilibre en se maintenant à la façade. Il regarda par la fenêtre, mais ne vit l'autre bagage nulle part. Il n'était tout simplement pas là. Sans réfléchir, la curiosité l'emportant sur la peur, il se pencha à l'intérieur et vérifia le long du mur. « Seigneur, Monsieur Oscar, murmura-t-il, répétant le laïus qui lui vaudrait le pardon pour avoir échoué à ramener les deux bagages. J'ai regardé partout et il n'était pas là. J'aurais bien cherché dedans, mais il n'y avait rien pour s'amarrer, je... » C'était faux. Il aperçut une attache de métal autour de laquelle le cordon du store avait été fixé. Bray maudit ses yeux. Impossible de mentir à M. Oscar, qu'importe ce qu'il ressentait. Maudissant de nouveau ses yeux et son incapacité à ne rien dire d'autre que l'absolue vérité, il enroula la cordelette d'amarrage autour de la tâche. Lorsque le canot fut solidement arrimé, il passa avec précaution sa jambe par-dessus le rebord et, d'un bond souple, atterrit dans la chambre. Le tapis était trempé. L'eau s'étalait en flaques nauséabondes sous ses bottes. Baigné de la lumière matinale, Bray s'approcha du lit sur lequel Elinor était assise lorsque Oscar l'avait vue. Tâtonnant, il se risqua à presser le couvre-lit. Lui aussi était gorgé d'eau et recouvert d'une matière sombre et gluante. Bien que la pression soit légère, une petite flaque trouble se forma sous son doigt. « Le sac n'était pas là !» dit Bray tout haut, répétant une nouvelle fois la conversation qu'il aurait avec Oscar. « Pourquoi est-ce que tu n'as pas regardé sous le lit ?» répliqua ce dernier par la voix de Bray. Bray se pencha. De grosses gouttes sales s'écoulaient des franges du couvre-lit. Sous le sommier s'était formée une nappe d'eau croupie. Mais bon sang, Où c'est que cette femme a dormi ? Siffla-t-il, horrifié. Il se retourna. Pas de bagages. Il alla à la commode et l'ouvrit. Rien. Excepté 3 centimètres d'eau dans chaque tiroir. Il n'y avait pas de penderie, aucun endroit où cacher une valise. À supposer que Mademoiselle Elinor ait volontairement cherché à la lui dissimuler. Or, elle l'avait insisté pour qu'il retourne rechercher ses affaires. « Bon Dieu, Monsieur Oscar, quelqu'un est passé et l'a volé !» Il revenait sur ses pas quand Oscar, toujours par la voix de Bray, demanda « Bray, pourquoi tu n'as pas regardé dans le couloir ?»« Parce que, murmura Bray, cette vieille chambre est déjà assez affreuse. » La porte qui donnait sur le couloir était fermée. Mais la clé était dans la serrure. Bray s'avança et tourna la poignée. C'était verrouillé. Aussi essaya-t-il la clé, également poisseuse. La porte s'ouvrit. Il examina le long couloir, désormais dénué de tapis, aucune valise. Il marqua une pause, attendant que la voix d'Oscar lui ordonne de poursuivre ses recherches, mais rien ne vint. Bray poussa un soupir de soulagement et referma doucement. Il se retourna à la fenêtre qu'il enjamba avec précaution pour descendre dans le canot. Il dénouait lentement l'amarre, savourant le sentiment d'être sorti sain et sauf de cette pénible aventure quand il remarqua ce qu'il n'avait pas vu jusqu'alors. Le soleil éclairait maintenant la trace laissée par l'eau sur le papier peint. Elle se situait à plus de 50 cm au-dessus du lit, fait avec soin d'Elinor Damert. Si l'eau était montée aussi haut, comment cette femme avait-elle fait pour survivre ? Les Dames de Perdido. L'église baptiste Zion Grazie se situait sur Old Federal Road, à 2 kilomètres de Perdido. Ses fidèles, se voulant rigoristes, c'était l'édifice le plus inconfortable qu'on puisse imaginer. Une unique salle dépouillée, un plafond en voûte qui retenait la chaleur en été et le froid en février, et abritait grillons tapageurs en hiver et blattes volantes en juillet. Le vétuste bâtiment avait été surélevé à l'aide de piliers en briques quelques années avant la guerre de sécession et dessous, tapis dans le sable sombre, logeaient parfois des putois et parfois des serpents. La congrégation rigoriste de Perdido était connue pour 3 choses. Ses bancs, qui étaient durs. Ses sermons, qui étaient longs. Et son pasteur, qui était une femme minuscule aux cheveux noirs et au rire perçant, nommée Annie Bell Driver. Souvent, des gens supportaient les bancs sans dossier et les sermons de 3 heures, simplement pour la nouveauté d'entendre une femme, derrière le pupitre, face à l'assemblée, parler du péché, de la damnation éternelle et de la colère de Dieu. Annie Bell avait un mari insignifiant, 3 garçons tout aussi insignifiants et une fille, Ruthie, qui deviendrait la réplique exacte de sa mère en grandissant. Lorsque les eaux de la Perdido s'étaient mises à monter, Annie Bell Driver avait ouvert les portes de Zion Grazie afin d'y héberger toute personne ayant dû évacuer sa maison. Il s'avéra que les premiers à abandonner leur domicile furent les 3 familles les plus aisées de la ville, les Casquets, les Turcs et les De Bordeneuve. Elles possédaient chacun une scierie et des entrepôts, le bois de charpente étant l'unique industrie de Perdido. Ainsi, tandis que l'eau rouge et boueuse de la rivière inondait leur vaste pelouse, les 3 clans avaient rassemblé devant les porches de leur belle demeure des charrettes et des mules qu'ils avaient chargées de coffres, de tonneaux et de cajots pleins de nourriture, de vêtements et de divers biens. Ce qui ne pouvait être facilement transporté fut déplacé aux étages supérieurs des maisons. Seuls les meubles les plus encombrants restèrent sur place, dans l'espoir qu'ils résisteraient à la montée des eaux. On recouvrit les carrioles de bâches et on les conduisit jusqu'à l'église par la forêt. Les familles suivaient à bord de leur automobile, puis les domestiques à pied. Malgré les bâches, malgré la capote en toile des autos, malgré les parapluies et les journaux dans lesquels les noirs se protégeaient la tête, et en dépit même de l'épaisse canopée de pins, corps et biens arrivèrent trempés par la pluie. À l'intérieur de l'église, on avait écarté les bancs et posé les matelas au sol. Un coin avait été attribué aux femmes blanches, un autre aux domestiques noirs, un troisième aux enfants. Le dernier fut réservé à la préparation des repas. Ce refuge n'était destiné qu'aux femmes et aux enfants. Les hommes restèrent en ville, à sauver ce qui pouvait l'être dans les scieries, à aider les commerçants à monter leurs produits sur les plus hautes étagères, à transporter les infirmes et à convaincre les derniers récalcitrants de se mettre à l'abri sur les hauteurs. Lorsqu'enfin la ville fut abandonnée au flot, les hommes et les domestiques des familles, Casquet, Turk et Debordeneve, s'installèrent dans la maison d'Annie Beldriver, à quelques centaines de mètres de l'église. Les enfants voyaient dans ce grand bouleversement une aventure. Les domestiques un travail plus ardu et pénible que celui auquel ils étaient habitués. Quant aux riches épouses, mères et filles des propriétaires des scieries, elles n'évoquaient ni l'inconfort ni la gêne, ne pleuraient ni leur demeure ni leur bien, mais souriaient pour les enfants, pour les employés de maison et pour elles-mêmes, et s'entichèrent de « routi driver ». Cela faisait 5 jours qu'elles avaient pris leur quartier dans l'église Zion Gratche. Au matin du dimanche de Pâques, Mary Love, veuve de Randolph Casquet, et sa fille, Sister, étaient assises avec Annie Bell dans un angle de l'église. Elles seules étaient réveillées. Caroline de Bordeneuve et Manda Turk dormaient sur des matelas voisins. Tournées l'une vers l'autre, elles ronflaient doucement. Les domestiques étendus avec leurs enfants dans l'angle opposé remuaient de temps en temps pousser un cri sourd au milieu d'un rêve de crue ou de serpent d'eau, ou encore relevaient la tête en scrutant un instant les alentours d'un œil vide avant de se rendormir. « Va te poster dehors !» chuchota Mary Love à Sister. « Et dis-moi si tu vois ton frère et Bray revenir !» Obéissante, Sister se leva. Comme sa mère, elle était mince et anguleuse. Elle avait les cheveux des Casquets, fins et doux, mais sans couleur particulière, simplement ordinaire. Elle n'avait que 27 ans, mais chaque femme de Perdido, blanche comme noire, riche comme pauvre, savait que Sister ne se marierait jamais et ne quitterait jamais la demeure familiale. Laissées devant l'église, les carrioles avec des possessions des Casquets, des Turcs et des Debordeneve étaient surveillées de jour comme de nuit par l'un ou l'autre des domestiques munis d'une arme à feu chargée. Le chauffeur des Debordeneve dormait à l'avant du chariot le plus proche du chemin. Aussi, Sister marcha-t-elle avec discrétion afin de ne pas le déranger.
Aujourd'hui, je suis petit, petit, comme mon esprit, je me paye avec mes défauts. C'est toujours mieux de ne pas être comme il faut. Je suis fantastique. Everybody gets naked. Fantastic. Everybody gets naked. Nothing is real. Fantastic. plus beau homme aime-t-on. Quand je ris, je suis pas gentil. Derrière ton dos, je ris aussi. Fantastic. Everybody gets naked. Nothing is real. She's fantastic. Everybody gets naked. Nothing is real. She's fantastic.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Blackwater, Michael McDowell. Sister examina les ornières laissées par les véhicules qui avaient traversé la forêt de pins depuis Perdido. Même si le soleil surplombait déjà les immenses arbres et brillait dans ses yeux, la lumière dans les bois était encore hésitante, verte et nimbée de brouillard. Elle tourna la tête d'un côté, puis de l'autre. Le chauffeur s'agita sur son siège et demanda « C'est vous, Mlle Casquet ? Tu as vu Oscar et Bray ?
Je ne les ai pas vus, Mlle Casquet.
Merci, rendors-toi. C'est le matin de Pâques.
Le Seigneur est ressuscité,
murmura doucement le chauffeur avant de laisser aller son menton sur sa poitrine. Sister se protégea les yeux de l'aqueuse clarté matinale. Un homme et une femme émergèrent d'un voile de brume avant de faire une pause au milieu des ornières.
« Où est partie votre fille ?» demanda Annie Bell Driver à Mary Love.
Bon, « Je lui ai dit d'aller voir si Oscar et Bray arrivaient, » répondit-elle en levant la tête. « Ils sont allés en ville se rendre compte des dégâts. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'aime pas les savoir dans un canot. » Depuis qu'il est tout petit, Oscar a la mauvaise habitude de laisser filer ses doigts à la surface de l'eau sans faire attention. Cette rivière regorge de serpents et de sangsues. Tout le monde le sait. Alors, j'ai dit à Bray de garder un œil sur lui. Mais ce Bray est d'une étourderie, conclut-elle dans un profond soupir.
Sister apparut sur le seuil.
« Tu les as vus ?» lui demanda sa mère.
« Moi, j'ai vu Oscar, » hésita Sister.
Bray est avec lui, mais je ne l'ai pas vu.
Je veux parler à Oscar, dit Mary Love en se levant.
Maman, Oscar n'est pas seul.
Avec qui est-il ?
Une dame.
Mais quelle dame ? Demanda Mary Love Casquet en se dirigeant vers l'entrée de l'église. À une centaine de mètres, elle aperçut son fils en pleine discussion avec une femme bien plus mince et anguleuse qu'elle ne l'était elle-même.
« Qui est-ce, maman ? Elle est rousse.
Ben, »« Je ne sais pas, sister. »«
Elle est d'ici ?» demanda Annibal Driver en arrivant dans leur dos.
« Non !» lâcha Mary Love d'un ton catégorique. « Personne à Perdido n'a les cheveux de cette couleur. »
Partant du chêne sous lequel Bray Sugar White avait débarqué Oscar Casquet et Elinor Damert, désormais saine et sauve, un chemin traversait la forêt de pins. Il passait par l'église et la maison des drivers, puis croisait Old Federal Road pour finir 4 kilomètres plus loin dans un champ de canne à sucre qui appartenait à une famille noire, les Sapp. Oscar Casquet était le premier gentleman de Perdido. Même dans une ville aussi petite, un tel titre n'était pas sans importance. Premier gentleman par droit de naissance, étant l'héritier direct de sa famille. Il l'était également du fait de son apparence et de son allure. Grand et anguleux comme tous les Casquets, ses mouvements étaient cependant plus déliés et gracieux que ceux de sa sœur ou de sa mère. Il avait les traits fins et expressifs, parlait avec soin et un humour subtil.
Ses yeux bleus brillaient d'un éclat particulier et sa bouche semblait constamment réprimer un sourire. Ses manières courtoises ne variaient jamais selon son interlocuteur. Il se montrait aussi poli avec la femme de Bray qu'avec un riche industriel de Boston venu inspecter la scierie. En ce matin de Pâques, alors qu'Oscar et Elinor marchaient, le soleil dans leur dos illuminait les branches à la cime des pins. Des volutes de chaleur montaient de la rosée déposée sur le tapis d'aiguilles et s'élevaient autour d'eux. Immobiles et fumantes, de grandes flaques plus ou moins profondes s'étendaient de part et d'autre du sentier dans des creux où le niveau de l'eau avait submergé la terre. « Ce n'est pas l'eau de la rivière, mais l'eau des sous-sols, » signala Oscar. « On pourrait s'agenouiller et la boire directement. » Il se raidit soudain, craignant d'avoir été indélicat. Afin de chasser tout embarras, il se tourna vers Elinor et lui demanda « Mais qu'avez-vous bu à l'Océola ? Je ne suis pas certain, mademoiselle Elinor, que l'on puisse boire l'eau d'une crue sans en mourir aussitôt. Ben, « Je n'ai rien bu du tout, » répondit-elle, sans se soucier de l'invraisemblance de sa réponse. « Mais vous avez bien dû avoir soif pendant ces 4 jours !» Mademoiselle Elinor. Ben, « Je n'ai jamais soif, » dit-elle en souriant, « simplement faim, » ajouta-t-elle en passant sa main sur son ventre comme pour en soulager les grondements. Oscar n'avait pourtant rien entendu et Elinor n'avait absolument pas l'apparence de quelqu'un qui serait resté 4 jours sans manger. Elles continuèrent leur route en silence. « Pourquoi êtes-vous venu dans la région ?» reprit poliment Oscar. « À Perdido, je suis venu pour travailler. »« Et que faites-vous dans la vie ?»« Je suis enseignante. »« Mon oncle siège au conseil académique, » fit Oscar avec entrain. « Il pourra sûrement vous trouver un emploi. »« Mais pourquoi avoir choisi Perdido ? Nous sommes au milieu de nulle part, c'est le bout du monde. Personne ne voyage jusqu'ici, sauf pour m'acheter du bois. » « Bon, j'imagine que c'est la crue qui m'a porté là, » répondit Elinor en riant. « Vous aviez déjà connu une inondation avant celle-ci ? Oh oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. » Oscar Casquet soupira. Sans qu'il sache pourquoi, Elinor Damert se moquait de lui. Il songea qu'elle se plairait ici, dans l'éventualité où son oncle lui trouverait effectivement un poste. À Perdido, les femmes se moquaient toujours des hommes. Les Yankees de passage logeaient à l'Océola, discutaient avec les propriétaires des scieries, faisaient leurs courses dans des boutiques tenues par des hommes et se faisaient couper les cheveux par un homme en bavardant avec une clientèle masculine qui allait et venait chez le barbier du matin au soir sans jamais se douter une minute que c'était en réalité les femmes qui dirigeaient la ville. Sur le moment, Oscar se demanda si c'était aussi le cas dans les autres villes de l'Alabama. C'était peut-être le cas partout, songea-t-il avec surprise et inquiétude. Or, les hommes, quand ils se retrouvaient, ne débattaient jamais de leur impuissance, pas plus que cette dernière n'était mentionnée dans les journaux ou abordée par les sénateurs lors de leurs discours au Congrès. Alors qu'ils traversaient cette forêt de pins humides en compagnie d'Elinor, Oscar réalisa que si elle était représentative des femmes d'autres villes, puisqu'elle sortait bien de quelque part, c'est qu'ici comme ailleurs, les hommes étaient impuissants. « D'où venez-vous ? » demanda-t-il, une question qui suivait naturellement le cours de ses pensées. « Du Nord. »« Vous n'avez rien d'une Yankee ! » s'exclama-t-il. L'accent d'Elinor ne l'irritait pas comme l'aurait fait celui d'un nordiste, car il avait le rythme du sud et ses voyelles étaient suffisamment liquides pour l'oreille d'Oscar. Cependant, il y avait dans sa façon de parler une sorte d'étrangeté, comme si elle avait été habituée à s'exprimer dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Il fut soudain frappé d'une vision aussi précise qu'improbable d'Elinor, étendu sur son lit à l'Océola, prêtant l'oreille aux voix des hommes dans les chambres voisines pour en imiter
intonation et en mémoriser le vocabulaire. « Je voulais dire du nord de l'Alabama, » corrigea-t-elle. « De quelle ville ? Je la connais peut-être ?
Wade. »
« Non, ça ne me dit rien. Dans le comté de Fayette. Vous y avez été à l'école ? À Huntington. » Et puis j'ai eu un diplôme d'enseignante, il est dans les bagages que Bray est allé chercher, j'espère qu'il parviendra à les récupérer. L'un d'eux contient mes lettres de recommandation, dit-elle d'un ton un peu absent, comme si le sort de ses affaires lui importait peu, mais qu'elle s'était brusquement souvenue qu'elle devait s'en préoccuper. « Bray est un noir marqué par la responsabilité, » dit Oscar, en se touchant le front, comme pour indiquer où se trouvait cette marque sur le crâne du domestique. Plus jeune, il lui est arrivé de manquer à ses obligations, mais je lui ai donné un coup de planche qui a laissé des traces, et il ne m'a jamais plus déçu. » À mesure qu'il parlait, une autre partie du cerveau d'Oscar décida soudain que le comportement étrange de Mademoiselle Elinor pouvait de façon charitable et assez commode être attribué à la confusion qui devait l'accabler après 4 jours passés seul dans un hôtel en partie inondé. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez choisi de venir à Perdido, » insista-t-il. Soudain, le voile de brume qui les enveloppait se dissipa, et ils aperçurent l'église face à eux. La sœur d'Oscar se tenait sur les marches du perron. De toute évidence, elle guettait son retour. « Parce que, » répondit Elinor dans un sourire, « j'ai eu vent qu'il y avait quelque chose pour moi ici. » Oscar présenta Elinor Damert à sa mère, sa sœur et à la femme du pasteur. « Cette année, il n'y aura pas d'office du matin, » lança Hannibal Driver. « Nous avons suffisamment à faire comme ça. Et si les gens arrivent à dormir en sachant que leur maison et leurs biens sont sous l'eau, qu'on les laisse dormir. » Mademoiselle Elinor est venue à Perdido dans l'espoir de trouver un emploi à l'école pour la rentrée prochaine, annonça Oscar. Mais elle a été prise au piège à l'Osceola quand l'eau est montée. Bray et moi venons à peine de la trouver. Mais où sont vos vêtements ? Où sont vos affaires ? Mademoiselle Elinor s'alarma Sister dans un élan d'inquiétude. Oh, vous avez dû sans doute tout perdre, déclara Marie-Love en observant les cheveux d'Elinor. « Une inondation emporte tout, je suis surprise qu'elle vous ait laissé la vie. »« Je n'ai rien, » répliqua Elinor avec un sourire qui n'était ni la marque d'une résignation courageuse ni celle d'une indifférence réfléchie, mais qui paraissait plutôt se moquer des convenances. « D'où venez-vous ? » demanda Hannibal Driver. L'un des enfants, celui d'une domestique, s'était réveillé et les observait à présent d'un œil somnolent par les portes ouvertes. « J'ai obtenu mon diplôme à Huntington, » répondit Elinor. « Je suis venu ici pour enseigner. » « L'école est entièrement submergée, » intervint Oscar en secouant tristement la tête. « Les carpes y donnent la classe désormais. » J'ai aperçu 2 pupitres flotter dans Palafox Street, renchérit Sister. Les enseignants n'ont pu sauver que leur manuel, dit Marie-Love. Avez-vous quelque chose à manger ? Demanda Elinor. Je suis resté sur un lit à regarder l'eau monter pendant 4 jours. Je n'ai mangé qu'une conserve de saumon et des biscuits secs. Je ne me sens pas bien. Qu'on emmène Mademoiselle Elinor à l'intérieur, cria Hannibal Driver. Sister prit la main d'Elinor pour l'aider à grimper les marches de l'église. Bray a récupéré des boîtes de conserve du magasin de M. Henderson après l'inondation, dit Sister. Les étiquettes sont parties, donc on ignore ce qu'il y a dedans. Il suffit de les ouvrir. Quelquefois, on a des haricots verts pour le petit déjeuner et des petits pois pour le dîner. Mais celles de saumon, on peut les reconnaître à leur forme. Vous en mangerez uniquement si vous le souhaitez, bien sûr. « Je vous remercie de m'avoir secouru, monsieur Oscar, » dit Elinor, après s'être retournée depuis le haut des marches. Oscar regarda Elinor disparaître, puis il salua sa mère, revint sur le sentier et prit la direction de la maison des Driver. Poli, il fit au passage un signe de tête au chauffeur somnolent.
Voici donc pour ce soir la suite de ce roman, Blackwater, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.